et la grande extinction de la biodiversité. Ce silence à la une de la science avec une publication, Axel, qui dresse le bilan de 15 années de recherche en biologie de la conservation.
Oui, deux chercheurs français ont décidé de passer au crible leur propre domaine de recherche. Ils ont repris 13 000 articles publiés dans les plus grandes revues pour tenter de comprendre pourquoi la sixième extinction de masse, décrite, documentée, ne fait aujourd'hui qu'empirer alors que les alertes pleuvent depuis 40 ans. Laurent Godet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biogéographe pour le CNRS et professeur à l'Université de Nantes, en direct avec nous depuis les locaux de France Bleu, Loire-Océan. Alors, quel a été le déclencheur de cette forme d'introspection que vous avez menée avec votre co-auteur Vincent De Victor?
Oui, tout d'abord, merci de m'inviter dans votre émission.
Avec plaisir.
Je suis pas professeur, je suis simplement chercheur au CNRS. Eh bien, écoutez, ce qui a motivé notre travail avec mon collègue Vincent De Victor, c'est qu'on appartient, comme vous l'avez très, très justement dit, à une communauté qui s'appelle la biologie de la conservation, qui est un champ très interdisciplinaire, qui allie des géographes, des historiens, des philosophes, des biologistes, des écologues, et que cette communauté extrêmement dynamique existe depuis le début des années 80, publie énormément d'ouvrages, de publications scientifiques sous forme d'articles, se réunit également en colloque, et force est de constater que à l'issue de chacune de nos publications et de chacun de nos colloques, on conclut non seulement au maintien de cette crise de la biodiversité, mais plus inquiétant encore, à son accélération. Donc on a estimé, nous, finalement, que on avait non pas un droit, mais un devoir d'inventaire de ce qui était produit par notre champ disciplinaire pour savoir si, finalement, la source de cette crise de la biodiversité ne pouvait pas être imputée à l'inefficacité de notre discipline. Et on a passé, donc, comme vous l'avez dit, en revue plusieurs articles scientifiques, 13 000, les articles ont été publiés dans les 9 grandes revues de la conservation depuis 15 ans, à travers le prisme de 3 questions très précises. La première, ça a été, est-ce qu'on a un manque de connaissances aujourd'hui qui ferait qu'on ne peut pas contrer cette crise de la biodiversité? Deuxièmement, est-ce qu'on n'a pas assez de solutions proposer ou est-ce qu'on propose des solutions qui sont peut-être trop contraignantes? Et enfin, est-ce qu'on médiatise ou est-ce qu'on diffuse des résultats qui seraient trop pessimistes et donc éventuellement démobilisateurs?
Alors vous avez passé 2 ans sur ce travail, j'ai plus qu'à vous laisser répondre à ces 3 questions alors.
Oui, exactement. En fait, on était parti sur 2 mois de travail, ça a duré un peu plus longtemps. Une bonne partie de nos vacances et de nos week-ends et de nos soirées. On était un peu trop enthousiastes, mais bon, le résultat est là maintenant. Et je dirais qu'il y a, finalement 2 grandes évidences qui ressortent de cette étude-là. La première évidence, c'est que oui, il y a une crise de la biodiversité qui est majeure et très impressionnante puisqu'elle concerne quasiment tous les groupes taxonomiques qui sont étudiés et qui affectent tous les continents mais également le domaine marin. La deuxième chose, c'est que les causes de la crise de la biodiversité, telles qu'elles ont été identifiées il y a maintenant près de 40 ans, sont toujours les mêmes et ils se détachent très nettement, quel que soit le continent, quel que soit le groupe taxonomique. On se rend compte que les grandes causes d'érosion de la biodiversité sont la fragmentation des habitats, les invasions biologiques dans les milieux fermés et insulaires, la surexploitation des ressources naturelles et du vivant en général, auxquelles s'ajoutent les changements globaux contemporains, les changements climatiques et les changements d'occupation et d'usage des sols qui affectent cette fois toute la biodiversité. Pour autant, et la surprise de notre étude, ça a été de mettre également en lumière, ce qui prouve que les scientifiques n'ont pas un pessimisme dogmatique, je dirais, des bonnes nouvelles. Et il y a 2 types de bonnes nouvelles. Le premier type de bonnes nouvelles, ce sont des retours spontanés du vivant, sans qu'on puisse l'expliquer. C'est l'exemple du retour du loup, des grands prédateurs en Europe. Et également des bonnes nouvelles qui sont cette fois de l'origine qui résulte de la mise en place de mesures de protection fortes qui ont eu des effets immédiats.
On parlait d'introspection tout à l'heure, vous disiez on voulait savoir si notre communauté était utile. Quel a été le rôle de la biologie de la conservation depuis 15 ans alors?
Eh bien, la biologie de la conservation, c'est une discipline qui, dès le début, s'est affichée comme étant une discipline de la crise, de l'urgence, et comme étant une discipline très appliquée. Si bien que notre discipline a été à même de proposer, depuis le début des années 80 et même avant, une multitude, toute une boîte à outils, d'outils de conservation, des mesures de conservation les plus strictes jusqu'aux plus souples, en passant par la gestion intégrée des territoires, en passant par les aires protégées, la protection des espèces, etc. Et on se rend compte que lorsque ces outils sont appliqués, je dirais à la lettre, de manière ferme, il y a une efficacité sans commune mesure.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez fait le tour du problème, vous avez proposé les solutions et tous les choix ne sont pas faits, c'est ça?
Alors, c'est un peu ça. C'est-à-dire que je pense que on ne peut plus se réfugier aujourd'hui sur le fait que nous n'avons pas assez de connaissances pour répondre à cette crise. On la comprend très bien, on en comprend l'origine. On a même la boîte à outils nécessaire pour y pallier. En revanche, ce qui est peut-être à reprocher, s'il y avait un reproche à faire de la part de notre communauté, c'est sa très grande prudence. Nous sommes extrêmement prudents lorsque nous annonçons des résultats, nous développons une méthodologie, encore plus prudents lorsque nous les interprétons, et encore plus prudents lorsque nous préconisons des mesures de protection. Les mesures de protection et de conservation que les scientifiques ont proposées sont des mesures à minima très prudentes. Quand on parle de protection d'une espèce, on a employé les termes de population minimum viable. Quand on parle de protection d'un habitat, on parle de protection superficie minimale de protection d'un habitat. Et ce qu'on n'a peut-être pas totalement réalisé, c'est que ces mesures à minima étaient ensuite renégociées, redébattues et complètement amoindries.
Valérie Charcigo, un commentaire sur ce que vient de nous dire justement Laure Godet sur ce travail et puis aujourd'hui ce qui reste à faire finalement, qui n'est plus tellement du ressort des scientifiques, hein, si on comprend bien.
Oui, ça c'est quelque chose. Alors c'est une étude qui est importante parce qu'elle démontre cette réalité, mais on pouvait s'en douter il y a déjà quand même pas mal de temps. Simplement, on n'avait pas d'éléments.
Là, ils ont épluché la littérature. Quantifié, il y a un gros travail de
voilà.
Faire, ouais.
Mais c'est quelque chose que l'on sent bien, que l'on entend bien. Par contre, il faudrait voir ce que signifient les solutions. C'est-à-dire, est-ce que protéger une espèce, c'est simplement avoir des mesures extrêmement techniques, c'est le terme qui a été employé. Est-ce que des mesures beaucoup plus larges, beaucoup plus politiques, beaucoup plus économiques ne seraient pas absolument nécessaires? C'est-à-dire, on a un peu l'impression qu'on essaye de formaliser des petits sparadraps qu'on va coller dans une fuite sur le bateau sans réfléchir, en fait, à la gestion du bateau lui-même.
Michel Serres, un commentaire rapide aussi sur cette étude.
Je crois l'effet que une espèce donnée est un fil de trame, vous voyez, qui rencontre les autres espèces qui seraient les fils de chaîne. Et lorsqu'on compte le nombre d'espèces disparues, on se pose la question globale, justement, Valérie a raison, la question globale, jusqu'à quand le tissu va tenir.
Voilà. Laurent Godet, vous avez une réponse ou pas?
Oui, complètement.
À la lecture
je rebondis
de vos travaux.
Un peu sur ce qu'a dit, oui, ce que disait Valérie Chansigo. Effectivement, je pense pas que on puisse avoir une réponse dans la technoscience et dans des mesures techniques. Ça, c'est un fait. En revanche, je pense qu'on manque probablement de bon sens et de volonté politique lorsqu'on met en place des mesures de protection ou de conservation. Il paraît complètement aberrant, pour prendre des exemples très parlants à l'échelle de la France, de proposer de protéger une espèce au niveau national, comme le loup, par exemple, le loup gris, qui est protégé nationalement, qui fait l'objet d'une convention internationale qui est la convention de Berne, qui est inscrite à l'annexe 2, à l'annexe 4 de la directive Habitat, donc une espèce qui bénéficie de protections très fortes, et en même temps, de proposer et d'autoriser des tirs de loup à hauteur de 43 individus sur une population de 430. Donc c'est une politique d'extermination sur une espèce protégée. Le grand tétra, pareil, espèce en voie de disparition, à nouveau ouvert à la chasse. Donc il y a des politiques qui sont incohérentes et incompréhensibles, je pense, du grand public.
Laurent Godet, merci beaucoup en tout cas pour ces informations. Axel, on se retrouve demain pour une nouvelle Une de la Science.
Et oui, à demain.
À bientôt. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, décoder les humeurs dans l'activité des neurones, c'est ce que viennent de réussir des chercheurs californiens en suivant sur plusieurs jours des patients équipés d'électrodes intracrâniennes. Ils sont arrivés à prédire leurs humeurs simplement en décodant l'activité électrique de leurs neurones. Une prouesse de taille étant donné que les signaux correspondants à l'humeur émanent de différentes régions du cerveau. Il a donc fallu élaborer un algorithme de décodage de données issues de différentes zones, un travail paru dans la revue Nature Biotechnology. Une galaxie ornée d'un anneau de puissants rayons X en observant la galaxie AM0644 située à 300 millions d'années de nous, des chercheurs de la NASA ont été très surpris de voir qu'elle était entourée d'un halo de sources X. L'explication tient au fait que cette galaxie est issue de la collision passée entre deux galaxies qui se sont entre-déchirées pour ensuite fusionner. Les forces issues de cette collision ont favorisé la création d'étoiles ou de trous noirs en périphérie qui sont maintenant à l'origine des rayons X. Et puis deux pêcheurs irlandais ont attrapé un élan géant vieux de 10 000 ans. Ils ont été surpris de remonter donc ce crâne avec ces énormes bois accrochés dans leur filet. Une pièce de presque 2 mètres de large, parfaitement conservée par l'eau. L'espèce identifiée depuis par les paléontologues est impressionnante. Un animal majestueux de plus de 2 mètres de haut et dont les bois pesaient plus de 40 kilos. La photo de ce crâne est visible sur notre page Facebook.